Au printemps 2011, Phaidos Sonore a été contacté par Gilles Picouet, professeur à l'école régionale des Beaux-Arts de Besançon, afin d'organiser un atelier de création de documentaires sonores avec des étudiants de deuxième année. Le projet, destiné à faire sortir les élèves de leur école et leur faire découvrir de nouvelles pratiques artistiques, était centré autour de l'histoire singulière de l'usine Rodiaceta à Besançon. C'est dans cette usine qu'a eu lieu, entre autres, l'expérience du groupe Medvedkin, qui réalisait des films sur la condition ouvrière et ses revendications culturelles. Cette histoire ne peut être comprise sans son contexte, la vie à l'usine, la fin des années 60, l'émulation due au centre culturel populaire de Pallante-les-Orchamps. Invité à travailler dans les locaux de la salle de musiques actuelles, la Rodia, sans H, les étudiants, un temps transformés en preneurs de son et en réalisateurs, vous proposent ce documentaire sonore.
Je travaille en 4-8.
La Rodia Ceta.
À la Rodia Ceta.
Et en filature. C'est une usine qui use son monde. T'es rendu.
Le but des organisations syndicales, c'est pas trop.
Le bail, c'est fini, maintenant.
Piquet de grève, c'est-à-dire occuper l'entreprise. CGT,
CFDT.
Pas trop.
On devient tous nerveux.
Dans une ambiance formidable.
CCPPO, Centre culturel populaire de Pallante-les-Orchamps.
Medvedkin.
C'est triste d'avoir une boîte comme ça, comment finir en queue de poisson, quoi.
Il y avait une dynamique au niveau de l'usine, c'était vachement intéressant.
Le comptoir, mardi 28 février. Rodiaceta, comme chez Dassault, les ouvriers occupent l'usine et interdisent l'accès, même au patron.
Patron,
t'es rendu.
Il nous faisait passer des tests, surtout manuels. Pas tellement intellectuels, parce qu'il fallait avoir la dextérité et puis être...
Serge, Jean Denant.
Au niveau manuel, c'était du travail manuel plutôt. Donc on passait un examen. Qui nous est passé sur... Ça durait une heure ou deux heures. Et suivant le résultat de l'examen, ils nous mutaient dans les ateliers, c'est-à-dire les tirages, ou les filatures, ou l'entretien. Et moi, ils m'ont muté en filature thermale, en équipe de 4-8.
J'étais à la filature, donc tu prends ton poste, par exemple à 4h du matin.
Henri Traforetti.
À 4h du matin, tu arrives et tu vas remplacer un autre. Donc l'autre, avant de partir, il ne part pas tant que tu n'es pas là. Il part pour te dire, voilà, moi j'ai fait ça, parce que tu reprends son métier. Alors un métier, c'est une immense structure en acier, si tu veux, qui fait à peu près 15 mètres de long. D'un côté, 15 mètres de long de l'autre. Et sur ces longueurs, tu as deux bobines qui tournent tous les 30 cm. Et donc la bobine, elle a un temps pour se remplir. C'est-à-dire que tu reçois du fil qui arrive d'une filière, une structure, qui est composée de sable et de petits trous minuscules, et qui, par pression, le polymère qui est chauffé rentre dans la filière par pression et sort en fil. Il passe dans les trous minuscules, tu vois, il est épuré dans le sable, et il passe dans les fils. Ensuite, ce fil, eh bien, il t'est envoyé en bas, parce que le gars qui réceptionne le fil à la sortie de la filière, eh bien, lui, il est 10 mètres au-dessus de toi. Donc avec de l'air, il prend le fil dans sa main, très chaud, hein, il prend le fil dans sa main, et puis il te l'envoie. Toi, tu le réceptionnes comme ça, tu prends le fil dans ta main, tu le fais tourner autour d'un rouleau, t'as deux ou trois rouleaux, pour l'étirer un petit peu, et puis après, avec une brosse, tu prends le bout du fil, tu le mets sur la bobine du bas. Après, tu prends, tu le mets sur la bobine du haut, parce que tu as deux faisceaux. Et donc, tu vas mettre un certain temps à ce que la bobine se remplit. Et tu fais ça à chaque fois. C'est-à-dire que quand tu as fini un côté, tu recommences. Et entre-temps, il faut préparer tes étiquettes, et entre-temps, il faut mettre les bobines sur les chariots. Il faut pousser les chariots, etc., etc. C'est-à-dire que tu as une occupation presque permanente. Tu ne peux pas t'assoupir, tu ne peux pas, je ne sais pas si tu vois, à 4h du matin, ou quand tu prends le boulot à 20h, je veux dire, tu arrives à minuit, t'es, des fois, tu es en état de somnolence, si tu veux. Tu vois, c'est très difficile.
Quels sont vos sentiments par rapport à votre travail? Qu'est-ce que vous éprouviez? La fatigue, c'était quelque chose d'éprouvant, c'était répétitif.
Et puis, je pense qu'il fallait, enfin, tout dépend du caractère de la personne.
Michel Marchal.
C'était quand même intéressant, parce qu'il fallait, c'était contrôlé par des appareils électroniques. Hein. Dans les centrales, on avait des commutateurs manuels automatiques. Donc, on faisait une tournée, deux tournées par poste, pour faire tous les relevés. Donc, une tournée prenait 2h30, 3h, quand tout marchait bien. Ça marchait pas, il fallait se débrouiller pour établir tout ça. Ça peut être une chute d'humidité, une hausse, une baisse de température, une hausse, ça dépend. Il fallait régler tout ça. Donc ça, c'était intéressant pour nous. De pouvoir manœuvrer un peu tout ça, ça sortait de l'ordinaire, quoi, finalement. Autrement, le lavage, c'était du systématique. Hein. Comme on appelait ça, du systématique. Le lavage des centres. C'est pas bien intéressant. Autrement, dans l'ensemble, le temps que j'ai passé au conditionnement, je me suis pas en plein.
Si je travaille de nuit, je rentre à 4h30, elle repart au boulot à 6h30. Je la vois juste le midi, tu sais, je me réveille, j'ai mal luné. Tu vois ce que c'est quand tu as travaillé et tu as mal dormi. Ça va pas. Le soir, elle rentre à 6h30, je repars à 7h20. Il faut qu'elle fasse à manger. On mange en vitesse pour que je me fous le camp.
Ah, des machines très très bruyantes. D'ailleurs, ils avaient mis des panneaux anti-bruit, mais ça atténuait légèrement. Ce n'était pas très efficace. D'ailleurs, on passait des tests au niveau auditif régulièrement tous les ans pour voir si on était atteint. Vous aviez des ateliers en plein milieu des bâtiments, donc on a toujours été travaillé au néon, dans un bruit infernal. Hein. Et donc on travaillait toujours à la lumière et à la chaleur, parce que quand vous aviez les fondoirs au-dessus à 300 degrés, la chaleur, on l'avait sur la tête. Hein. Donc on travaillait avec des côtes blanches, mais dessous, on était complètement... sans abus, on était avec notre côte uniquement pour supporter la chaleur. Par contre, le danger qu'il y avait, c'était que ces fils passaient dans un produit qui s'appelait l'enzymage, et ce produit était très 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 toxique. Alors quand il n'y avait pas de soufflerie, évidemment, le fil absorbait ce produit, parce que c'était un produit antistatique, comme c'était du plastique. Pour éviter que le plastique absorbe toutes les poussières, ils mettaient ce produit. Et où ça a changé la donne, c'est quand ils soufflaient sur le fil, le produit se volatilisait. Et la machine, elle était grasse. Alors ça veut dire que nous, le produit, on l'absorbait quand on travaillait sur cette machine. On n'avait qu'une machine qui était en essai. Et un jour, on m'avait dit, j'avais entendu dire que c'était un produit dangereux. Et un jour, je descends au sous-sol, je vais voir les gens qui fabriquaient justement cette enzymage avec plusieurs produits. Et puis je lui ai dit au gars, je lui ai dit, mais qu'est-ce que tu mets dans ton enzymage? Puis il dit, mais tiens, regarde ça. Il y avait des tonneaux de 200 litres avec une grosse tête de mort dessus. J'ai dit, c'est ça. Puis c'était bien marqué, surtout ne pas inhaler.
Vous devez cesser toutes les discussions politiques pendant les heures de travail. Deuxièmement, votre activité de délégué provisoire doit s'exercer dans le temps qui vous est imparti, c'est-à-dire dans la limite maximum de 15 heures par mois. Troisièmement, à plusieurs reprises, vous avez été surprise à lire en cachette des revues ou documentations n'ayant aucun rapport avec le travail. Quatrièmement, nous vous demandons d'être ponctuels. Cinquièmement, nous vous rappelons qu'il est interdit de percevoir des cotisations pendant les heures de travail. Veuillez bien considérer cette lettre comme un dernier avertissement. Veuillez agréer, madame, nos salutations distinguées.
Quand on arrivait en poste, et rapidement on va s'apercevoir que tu ne peux pas t'asseoir. Tu ne peux pas parler. Alors déjà que c'est difficile de parler, mais tu ne peux pas parler pour ne serait-ce que détendre un peu toi, cette lourdeur des choses. Tu ne peux pas, aller pisser. Il faut demander l'autorisation pour aller pisser. Tu ne peux pas fumer. Tu ne peux pas discuter. Tu ne peux pas te syndiquer. Tu ne peux pas. C'est interdit. Tout est interdit. Et tu as pour maintenir ces interdictions, eh bien tu as les flics des ateliers, c'est-à-dire tous les chefs, même s'il y en avait quelques-uns qui étaient sympas, c'est pas. Mais ils sont là pour fliquer. Fliquer, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on t'oblige à perdre le moins de temps possible pour toujours être dans la production. Donc si tu vas pisser, c'est du temps perdu. Si tu vas fumer, c'est du temps perdu. Si tu parles, c'est du temps perdu. Si tu t'assois, c'est du temps perdu.
Alors l'ambiance était particulière parce qu'on était, tous des jeunes. Moi j'avais 20 ans à cette époque-là. Donc qui dit jeune dit insouciance et puis on s'amusait. On travaillait mais on s'amusait dans les ateliers.
C'est un travail qui est dur, mais il y a une communauté d'intérêt de la part des entrepreneurs. Une communauté d'intérêt qui fait qu'à un moment donné, tu te sens un peu plus fort parce que c'est une usine qui use son monde, qui use ses hommes. Donc il faut tenir le coup. Et avec combien de fois dans la nuit, t'as sommeil, tu es prêt à t'écrouler, puis t'as quelqu'un qui te tape sur le dos, il faut continuer, etc. C'est le bruit. Un bruit. Qu'on a peine à imaginer, mais c'est un bruit terrifiant. Et puis, c'est ces gestes mécaniques que l'on fait pendant 8 heures de temps, et qui sont très répétitifs, qui sont dus au fait qu'il y a une organisation du travail, et cette organisation du travail veut que l'individu travaille le plus possible, le plus rapidement possible, pour produire. Donc à partir de là, on est un peu des bêtes de somme, et il faut réaliser un travail qui est pénible et au-delà, il faut réaliser, disons, le plus conforme possible à ce qui est dit de faire. Voilà. Un petit rappel, peut-être, pour essayer de comprendre. On est tous des mecs de 20 ans, 25 ans. La guerre, elle est terminée depuis une trentaine d'années. La guerre d'Algérie est finie. Et tous ces mecs sont revenus de la guerre d'Algérie. Donc si au départ, ils ont eu l'habitude d'avoir un peu, de mettre le genou à terre chaque fois qu'on leur disait « mets le genou à terre », là, ils n'ont plus envie. Parce que tu es dans une entreprise où tu es marginalisé avec un numéro. On ne dit pas Monsieur Traforetti, on dit 3513. Donc.
Je travaille en 4-8, à la radio très tard.
On est marginalisé, c'est-à-dire tu n'as pas d'identité en soi. L'identité, elle vient parce que tu as tes pères à côté. Tes copains de boulot, etc., qui sont là, nous, on s'appelle par nos surnoms, etc. Mais autrement, tu n'es pas considéré comme un individu. Et ça, c'est très déplaisant chez un individu, je crois. On n'a pas le droit d'être mis dans cet état. Donc, quand on comprend ça, on comprend pourquoi après, et les conditions de travail et tout ça, on comprend pourquoi on se met en lutte. On n'a pas aucune alternative, c'est la lutte.
Juste le temps d'effacer la fatigue pour retourner au travail plein d'entrain.
Odiaceta. Odiaceta qui? Odiaceta. Odiaceta qui? Odiaceta toi. Et le profit crève de honte de voir des ouvriers joyeux.
Je te dirais, t'es rendu de occupé.
Rodia à qui? Rodia pourquoi?
Et donc il y a 67. Alors il faut savoir qu'auparavant, il y avait eu 21 dimanches non travaillés parce qu'on refusait de travailler parce qu'à l'époque, juste avant qu'on se mette en grève, le patron voulait nous faire chômer. Donc, et c'était un chômage très particulier parce qu'il disait toi tu chômes pas. Et ça, c'est terrible. Pas, pourquoi moi je chôme, pourquoi lui je chôme pas, toi. Et donc, 21 dimanches de suite, on fait grève. Et il arrive le 25 février 1967. Une équipe qui rentre, une équipe qui sort. Tout le monde s'arrête devant l'usine. Et on prend la décision de faire grève avec piquet de grève. C'est-à-dire occuper l'entreprise.
Alors depuis quelques années, nous menions une lutte pour la réduction du temps de travail.
Georges Morivard.
Parce que la plupart du personnel était en 4-8, hein, c'est-à-dire que l'usine ne s'arrêtait jamais et qu'il fallait assurer toute l'année le fonctionnement de la production. Donc il y avait 4 équipes pour ça. On faisait 42 heures par semaine. Avec des horaires qui changeaient tous les deux jours. Deux jours de matin, 4h midi, deux jours d'après-midi, midi, 8h, et trois jours de nuit, 8h du soir, 4h du matin. Bon, c'était assez pénible. Alors pour cela, on mène plusieurs actions et puis on décide une fois CGT, CFDT, de faire une grève tous les dimanches matins, de 10 à 12. Ça marche très bien. Il y a des. Je ne sais pas, il y a peut-être des phénomènes, il y a peut-être un peu le tiercé qui fait que il y a beaucoup de gens qui sont. La grève marche très bien et puis il n'y a pas de résultat, ils ne veulent pas négocier du tout. Et un jour de février, on a décidé de bloquer 2 équipes, c'est-à-dire celle qui sort et celle qui arrive, et puis on tient un meeting sur où on en est, qu'est-ce qu'on fait. Et là, quelqu'un dit, ben, puis s'ils ne veulent pas lâcher, on n'a qu'à occuper l'usine. Et on occupe l'usine le 27 février 1967.
Mais surtout par cette idée continuellement reprise que le déséquilibre lié aux conditions de travail se traduit par un déséquilibre de toute la vie. Une nulle augmentation de salaire ne suffirait à compenser. Et qu'il ne s'agit pas de négocier à la façon américaine son intégration dans une société dite du bien-être, dans une civilisation dite des loisirs, mais de remettre en question cette société, cette civilisation.
Tous les boîtes du groupe, à un moment donné, vont se mettre en lutte. C'est-à-dire que tu vas avoir à Roanne 3000 personnes, dans d'autres 2000, un peu partout, toutes les boîtes du groupe se mettent en lutte. En plus, tu as les métallurgistes de Lyon, une multitude d'entreprises se mettent en lutte. C'est-à-dire, c'était les prémices de 68.
Patron.
Un peu surpris qu'il y ait une telle volonté de... Parce que, bon, le directeur de l'époque, il répondait toujours non, 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 jamais rien. Bon, et puis on voyait bien qu'il commençait à y avoir une accélération de la productivité et des cadences. Et il y a aussi un phénomène, c'est que, bon, il y a du travail à cette époque. Hein. Puis il y a beaucoup de jeunes. des gars qui sortent, qui ont 24, 25 ans, qui sortent d'un service militaire long, de la guerre d'Algérie, et puis qui se retrouvent un peu en caserne, là. Hein. C'est très surveillé, très encadré dans les ateliers de production, et il y a déjà de nombreux conflits pour des rapports entre cadres et ouvriers, et maîtrise, chef d'équipe. Hein. Bon, ça bouge souvent et c'est très suivi. Et puis, il y a aussi un autre phénomène, c'est que bon, la CFTC, qui était un syndicat, bon, comme son nom l'indique, de tendance chrétienne, pas CFDT, hein, c'est-à-dire Confédération française démocratique du travail, en 64. Et là, ça libère un peu les énergies, la combativité des militants CFDT qui rentre carrément dans la lutte avec la CGT, qui a plus de tradition. Mais c'est la CFDT qui est l'organisation majoritaire dans cette usine. D'abord, on était une équipe. Hein. J'étais l'équipe B, je connaissais l'équipe B, les autres personnels, les autres équipes. On se croisait un peu dans les couloirs une fois à 4h du matin. Mais alors donc, il y a eu des mélanges. Il y a des gens qui sont venus plus que le temps de leur équipe. Ils sont venus souvent, ils ont pris des responsabilités. Il y a des gens qui ont fait tourner la cantine, qui se sont mis à faire la popote, parce qu'il fallait quand même bien assurer les repas, tout ça. Et puis, il y a eu surtout, assez rapidement, une animation culturelle de bon niveau. Qui a permis à des gens de découvrir autre chose, des films qu'ils n'avaient jamais vus, des pièces de théâtre, tout ça en soirée. Et parfois, les femmes venaient, même les gosses, c'était... bon, il y avait toujours quelques-uns qui jouaient aux cartes, mais c'était quand même... ça attirait beaucoup les gens, et il y a eu des discussions. Il n'y a pas eu que ça, il y a eu des conférences sur la sécu, il y a eu... planning familial, je crois, je sais pas quoi, toutes des choses comme ça. C'était très très vivant, quoi, parce que il y a eu un très grand mouvement de solidarité autour de ce mouvement de la part des organisations démocratiques de Besançon et politiques, et des chrétiens aux communistes. Tout le monde était là, des étudiants aussi.
La tension, elle est pendant un mois, elle sera là. On est tous en tension, parce qu'en même temps, on est confronté beaucoup avec un employeur qui est extrêmement puissant. Il faut savoir que c'est pas Rhône-Poulenc Textile, c'est 14 000 salariés en France, mais il dépend du groupe Rhône-Poulenc qui emploie 100 000 personnes. C'est des milliards, des milliards, des milliards. Derrière, il y a Dupont de Nemours, donc c'est une tentacule, c'est une pieuvre, c'est quelque chose d'extrêmement puissant. On est confronté à cet employeur par l'intermédiaire de son représentant, qui est Rada à l'époque, qui était le directeur de l'usine, et qui essaye par tous les moyens de briser le mouvement, par l'intermédiaire des cadres, par l'intermédiaire des commandos, par l'intermédiaire de la CFDT, certains individus de la CFDT, etc. etc. C'est une guerre aussi avec les autres organisations syndicales, parce que il y en a certaines qui auraient tendance à trouver des compromis très rapidement, alors qu'on sait pertinemment qu'on n'aura rien. Au départ, on sait qu'on l'a fait parce qu'on est en souffrance.
Enfin, perdre 5000 francs parce que des copains ont été licenciés et encore aujourd'hui verser des sommes de salaire pour que ces gars-là aient leur salaire d'assuré. Si ça se savait, ça, un peu, si on pouvait le développer... Pas de la culture, ça.
Et la puissance, elle va venir d'où? Elle va venir de ce groupe d'individus qui fait la grève équipe par équipe, et puis la journée, et qui va durer un mois, mais en même temps, par une solidarité agissante extrêmement importante. C'est-à-dire que là, il va y avoir une structure qui va être mise en place et qui va... dont vont faire partie les associations de famille, les partis politiques, les partis syndicales paysannes, les syndicats, etc., etc. C'est-à-dire que ça va être quelque chose d'extrêmement puissant. Et en plus, quelque chose de très particulier, c'est quand Chris Marker va venir à Besançon, Mario Marais va commencer à s'occuper de la communication extérieure. Donc il va à tous ses amis à Paris, tout partout, ça débat sur ce qui se passe à la Rodia, etc. Et la solidarité revient. Voilà. Donc ça commence à percer dans les télévisions, etc.
Il y a une page qu'il faudrait que je vous montre, mais qui parle de... Ça, c'est la plus belle page. Allez, lire. Il reste qu'à ce jour, nous n'avons connu qu'une seule vraie maison de la culture. Monsieur Malraux ne l'avait pas inaugurée. Elle fonctionnait sans administrateur, sans directeur artistique et sans plateau tournant. Aucun député UNR, aucun industriel, pas un seul magistrat, nul notable n'a jamais participé à sa gestion. Le conseil d'administration comprenait 3/4 d'ouvriers. La fréquentation était ouvrière à 100%. Les responsables n'avaient pas fait appel à aucun intellectuel, mais quelques intellectuels vivants étaient venus spontanément. Ils ont été émerveillés, ils ont été accueillis comme des camarades. On y pratiquait une culture totale. Les animateurs s'y formaient à raison d'un par jour. Cette maison de la culture a fonctionné pendant un mois seulement, puis elle a été reconvertie en fabrique de textiles artificiels.
Qui est aussi très important pour moi, c'est pendant cette grève, cette maison de la culture qui se met en place. Le Paul Sepp qui arrive un jour avec Berchou et qui dit voilà, bah écoutez, on va faire une maison de la culture. Le premier jour, hein. Parce qu'on avait demandé à Paul Sepp de tout mettre en œuvre pour que pendant la grève, la culture soit présente. Théâtre, lecture de poèmes, expositions, cinéma, des fois 3 films dans la nuit. Une révolution culturelle pour tous ces gens qui n'y comprenaient pas grand-chose à la culture. Parce qu'ils venaient du monde rural où la culture, on sait ce que c'est au niveau des champs, mais la culture intellect, on ne sait pas ce que c'est. Donc c'est des confrontations, mais c'était d'un drôle pas possible, c'était pas quelque chose qui nous bouffait le mou. Tous les mecs, d'ailleurs, je sais pas si t'as écouté, mais des fois, ils s'esclament, « Ouais, non, je suis pas d'accord avec toi, mec, connard !» Tu sais, des trucs, mais bien, c'était violent, mais d'une bonté, quoi. Et donc tout ça aussi, ça fait évoluer, parce que les gens qui sont là, ils ont déjà vécu dans le monde, toi. Donc ils savent ce que c'est. Ils savent ce qui se passe dans l'Union soviétique, ils savent ce qui se passe dans d'autres pays, ils connaissent la politique intérieure, la politique internationale, etc. Et nous, on est là et on apprend.
Fini maintenant, nos ouvriers ont du temps.
Quand je te parlais des 20 mecs qui étaient ensemble, on militait en même temps au CCPPO, Centre culturel populaire de Palantes-les-Orchamps. Et depuis 2 ans, on arrivait à mettre dans le théâtre, on a même occupé le théâtre en décembre 1967, théâtre municipal. Il y a eu un appel, crac, on a occupé le théâtre. C'était à nous.
Camarades,
je sais pas si tu vois.
On va essayer le théâtre municipal avec le CCPPO.
On avait un théâtre pour nous tout seuls. Ça, c'était quelque chose. Ouais, vraiment, vraiment formidable. Et puis. On venait, Francesca Solville venait, Colette Magny venait.
Bah déjà, moi, enfin personnellement, j'avais déjà des contacts avec le CPPO bien avant la grève et j'animais en tant que CFDT la commission culturelle du comité d'entreprise de Rodia. Et là, on est tombé sous le charme de Paul Sepp. Et on a fait plein de choses ensemble, quoi. On était entièrement d'accord avec la formation qu'il nous apportait, question de littérature, cinéma. Je vais vous donner un exemple, la bibliothèque de la Rodia, elle existait avant, mais elle était sous les combles, à côté de l'ancienne chapelle des soirées. Parce qu'il y avait même, sous les soirées, il y avait la messe tous les matins. Il y avait un bâtiment qui s'appelait la chapelle et une messe tous les matins. Donc la bibliothèque est à côté, mais on n'entrait pas dans la bibliothèque. Il y avait une barrière. Il fallait dire quel livre on voulait. Et puis il y avait une vieille fille, très très vieille, qui allait nous chercher les livres qu'elle voulait bien nous donner. Et alors là, on a fait une des premières choses de la grève de 68. On a cassé la barrière, on l'a enlevée. Puis on a dit vous rentrez dans la bibliothèque et puis vous dégagez. Depuis après, bon, il y a eu des améliorations dans les locaux, dans le choix des livres. Et ensuite, mais il faut dire aussi que le CCPPO était une étape où il passait de l'animation culturelle de quartier à une animation plus grande et en direction des usines. Hein, principalement, il y avait pris contact avec les organisations syndicales, les organisations démocratiques pour que la vente des billets se fasse uniquement, principalement par des militants, syndicaux, ouvriers, enseignants, etc. Quelques années plus tard, pour vous donner un chiffre, c'est en 71, à moi seul, j'ai vendu près de 250 places pour le spectacle à La Renia, hein, dans mon équipe et autour. Mais il y a eu une enquête faite par la Fac des Lettres. C'est le CPPO qui, au point de vue national, amenait le plus d'ouvriers dans les salles de spectacle et de théâtre. Et c'était pas la région parisienne, comme on croyait, mais c'était ici. Donc ça a formé à la fois des militants syndicaux et à la fois des militants politiques qui ont mené une bataille culturelle avec le cinéma, avec le théâtre, avec les concerts. Ça, c'était une époque bénie des dieux.
CCPPO en 68.
Mireille Etignard.
Donc c'est bien après ça, ses débuts, hein, puisqu'il a démarré dans les années 54-55. Donc j'étais toute jeune, moi j'ai en 68, j'avais 17 ans et ça a été pour moi, une espèce d'émancipation culturelle parce que moi j'étais au lycée, j'avais une culture classique et j'étais déjà un peu militante, j'avais rapproché les jeunesses communistes, c'est ce qui correspondait à mes idées. Et automatiquement, je me suis retrouvée dans la mouvance du CCPPO parce que c'était l'association culturelle à Besançon qui était présente dans tous les mouvements militants. Automatiquement, on ne pouvait pas passer à côté. Quoi. C'était vraiment une association extrêmement, à la fois très, très dynamique, très riche, puis qui allait qui proposait des spectacles qui étaient différents. Quelque chose de très important dans ma vie. Après, j'ai voulu faire de l'animation culturelle un peu à cause de ça. Mais je l'ai rencontré tard. Et puis, je n'ai pas été une partie prenante. Je vendais des billets, j'aidais j'étais une simple adhérente. Et j'allais au spectacle, mais j'en ai bien profité.
Pour le militant que j'étais avec mes copains, c'était une aide fantastique. On avait besoin de quelque chose, on demandait... Jean-Pierre venait nous passer un film. En 67, le CPPO, il était là tous les soirs à faire une animation, soit un film, soit trouver quelqu'un pour faire monter une pièce de théâtre ou des discussions. C'était un relais... c'était un relais important. D'ailleurs, s'il y avait une présence ouvrière aussi forte, c'est que les gars jouaient le jeu à l'intérieur, les militants jouaient le jeu à l'intérieur des bottes. On ne ressentait pas du tout comme... Il fallait cette dynamique-là de quelques hommes pour arriver à ça, parce que dans les usines, on n'était pas préparé, il n'y en avait pas beaucoup à mener ce combat. Quoi.
Le CCPO revendique le pain pour tous, mais aussi la paix, le rire, le théâtre, la vie.
Qu'est-ce qui nous a amené aussi à ça? C'est la lecture. Quand tu écoutes Billy Truy, par exemple, mon ami qui est décédé il n'y a pas longtemps, ce gars, pareil, chez lui, interdit de lire, parce que lire, c'est perdre du temps. Donc, il fallait lire en cachette. Donc, tu lis pas, ou peu. Et Georges, il s'est mis à lire à 30 ans. Il s'est mis à lire à 30 ans quand la bibliothèque de Ronde Poulin couvrait tous les matins à 4h du matin.
Les gens du CPPO se donnaient le nom d'agitateur culturel, hein, un peu. Mais quand même, quand on arrivait
à ce que des mecs commencent à lire, commencent à aller voir des films autres que les gendarmes de Saint-Tropez et qu'on discute après d'un film qui a marqué et tout, ça donne des hommes différents et souvent qui prennent des responsabilités, quoi. Le fait de la grève de la Rodia a fait que bon, le Parti communiste a triplé ses voix, mais pas que ça, les socialistes aussi, il y a eu une conscience des syndicats qui se forment, des gens bon, parce qu'il existait quand même dans le monde syndical des gens qui avaient une démarche de classe, mais ça allait pas plus loin. Mais les types qu'on a formés, Trafaud, tout ça, enfin moi-même, Le Loup, plein de gars sont devenus des types qui ont élargi leur vision du monde et tout ça.
La culture trouvait une bagarre, une revendication, exactement au même titre que le droit au pain, le droit au logement, on revendique le droit à la culture. La culture trouvait une...
Enfin, comme disait l'autre, plus la classe ouvrière est instruite, moins on peut la gouverner.
La grande époque CPPO, c'est 66, 67, avec la grève de Rodia, jusqu'en 72 à 73. Donc derrière, il y aura aussi d'importants spectacles, dont 1789.
Et moi, je me souviens 1789.
Par le théâtre d'Ariane Mnouchkine, au Palais des Sports.
C'est l'événement de théâtre que j'ai connu quasiment, parce que bon, j'avais jamais vu du théâtre comme ça. Hein. Il y avait l'époque aussi qui faisait que bon, les gens de théâtre, les metteurs en scène, mais bon, étaient quand même, il y avait un théâtre très très d'avant-garde quand même qui s'était mis en place après 68. Il y a des choses quand même qui sont très nouvelles, quoi, un peu. Et cette façon de présenter la pièce au milieu du public, c'était quand même assez nouveau, hein. On n'avait jamais vu ça. Et moi, j'ai découvert. Il y avait des tréteaux dans la salle du Palais des Sports, et les acteurs nous appelaient comme ça. Il y avait, je me souviens de la prise de la Bastille où tout s'éteignait, et il y avait un acteur par estrade. Ils avaient une petite lumière et ils nous appelaient en nous disant : « Je vais vous raconter une histoire. Venez, venez, venez. » Alors, tout le monde, on s'approchait. C'était vraiment assez fantastique. Comme et disons que on participait quelque part un petit peu et un événement comme ça à Besançon, qu'elle accepte de venir, bon, parce que c'était le CCPPO. Et en plus, ce qui était incroyable, c'est que ça a joué trois fois. Moi, j'y suis allée les trois fois, parce que la première fois, j'étais tellement choquée. Ben, j'y suis retournée les trois fois parce que je ne pouvais pas arriver à partir. Il y avait l'ambiance, il y avait ce spectacle fabuleux, et puis ce public si chaleureux. Et il y avait, je me souviens, des cars qui venaient de Montbéliard. Hein. Il y avait des cars de partout, de toute la région. Et le Palais des Sports était vraiment rempli.
Il y aura un grand souvenir, c'est Mikis Theodorakis qui sort de prison et qui vient donner son concert, quelque chose d'extraordinaire. Il découvre cet opéra, hein. C'est magnifique.
Ça veut dire que la culture, c'était une manière de lutter aussi contre...
C'est une manière de vivre. Le cinéma n'est pas une magie, c'est une technique et une technique née d'une science et mise au service d'une volonté, la volonté qu'ont les travailleurs de se libérer.
Le groupe Medvedkin, ben oui, s'est formé à ce moment-là, début 68, hein, parce que auparavant l'idée s'était fait jour avec Mario Marais et puis Chris Marker, mais c'est en 68 à la présentation de son film. Et c'est à ce moment-là que l'idée va être lancée en disant, ben voilà, si vous n'êtes pas content du film, ben on va vous donner les moyens techniques et vous allez réaliser des films, si vous le désirez, vous réalisez vos films.
Avec cette hypothèse qui moi m'a paru toujours évidente, c'est que nous, on sera toujours au mieux des explorateurs bien intentionnés, plus ou moins sympathiques, mais de l'extérieur, et que, de même que pour sa libération, la représentation et l'expression du cinéma de la classe ouvrière sera son œuvre elle-même. Et que c'est quand les ouvriers auront entre les mains les appareils audiovisuels qui nous montreront à nous les films sur la classe ouvrière et sur ce que c'est qu'une nouvelle, sur ce que c'est que l'intérieur d'une usine.
Donc, de fait, Chris Marker a dit, voilà, bah, si vous êtes d'accord, parce qu'après, on s'est réunis en petit comité, toujours les mêmes, d'ailleurs, tu retrouves toujours les mêmes, et il a dit, ben voilà, est-ce que vous voulez vous appeler Groupe Medvedkin ? Parce qu'il avait fait un film sur Medvedkin. Alors, on y a d'abord posé la question, qui était Medvedkin ? Parce qu'aucun de nous savait qui il était. Et il nous a expliqué que c'était un réalisateur cinéaste russe, qui avait un train et qui parcourait l'Union soviétique pour aller filmer. Donc il filmait, je veux dire, les kolkhozes, mines, la culture, les paysans, etc. Et ensuite, dans son train, il développait, il remontrait, il allait voir les gens avec le film et puis il débattait pour voir comment, pour que la production, elle soit beaucoup plus importante entre ce qui a été vu et ce qui sera vu après. Donc on a dit, ok, filmer, développer, montrer, débattre, nous ça nous allait bien. C'était notre objectif, c'est ça qu'on voulait. Après, ben, on va avoir la première Super 8 et puis on va là aussi faire comme l'appareil photo, on va apprendre à filmer. Ensuite on va avoir la 16, on va avoir une 16 et puis on va apprendre à filmer. Et Chris Marker, il y a de son film À bientôt j'espère, il y a des rushs qui restent et on va servir des rushs de Suzanne et de Claude, son compagnon de l'époque, et on va partir de là pour Paul Seb va partir de là pour réaliser un film qui va s'appeler Classe de lutte. Alors dans ce film, chacun de nous aura un rôle à jouer, plus ou moins fort, plus ou moins grand, mais il aura un rôle à jouer. Par exemple, Jojo Binetruy va filmer plus que moi, etc. Moi, je vais monter, d'autres vont prendre le son, etc. etc. C'est-à-dire que c'est une œuvre communautaire, si tu veux, collective. Mais le scénario, c'est Paul Seb qui l'a écrit, puisque à l'époque, il s'arrête presque un an pour pouvoir réaliser ce film. On n'a pas une thune. C'est-à-dire que c'est tout avec des petits bouts de quelque chose que les films sont faits, sauf les 120 mètres que Bruno Muel va tourner avec Suzanne devant Yema. Et là, il y a 120 mètres de film. Mais autrement, tout le reste, c'est tout avec des petits bouts rafistolés. À la table de montage, tu avais des collants partout. Hein, clac, 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 clac. Donc tu vois, c'est un boulot quand même qui est assez fastidieux. Et puis, heureusement qu'on a eu l'aide d'une monteuse, parce que je ne sais pas si on s'en serait sorti. Alors, toujours est-il que sans ces techniciens, on n'aurait pas fait de film. Parce qu'après, il faut les synchroniser. Il y a entre l'image et le son, ça montait à Paris, parce que nous, on n'avait rien. Donc, tout se passe à Paris, les mecs, ils bossent la nuit, donc les autres sont en train de dormir, ils prennent les studios, ils font tout, et puis après, ils te ramenaient ça. Voilà. Donc on a fait ce genre de truc.
Rodia c'est à. Rodia c'est à qui ? Rodia c'est à toi. Et Rose dit ah. Et le profit crève de honte de voir des ouvriers joyeux. Rodia à qui ? Rodia pourquoi ?
Rodia pourquoi ?
Rien n'a changé. C'est pire qu'avant. Il nous reste à rejeter le capitalisme et construire une société qui prenne en compte l'être humain dans toute sa dimension politique, économique, sociale, culturelle et environnementale.
Enfin, comme disait l'autre, plus la classe ouvrière est instruite, moins on peut la gouverner.
Ensemble demain, à bientôt, j'espère.
Serge Jean Denant, Henri Traforetti, Étienne Courget et Mireille Yatignan.
Vous venez d'écouter La Roudia, le centre culturel populaire de Palanque-les-Orchamps et le groupe Medvedkin, une expérience culturelle ouvrière. Un documentaire réalisé par les étudiants de deuxième année de l'école régionale des Beaux-Arts de Besançon, sous la direction de Charlotte Rouault et Benoît Boury, de l'association de production sonore Faïdos Sonore et de Gilles Picouet, professeur à l'école régionale des Beaux-Arts de Besançon.
Piquet de grève. C'est-à-dire occuper l'emploi. CGT.
CFDT.
Patron.
On devient tous nerveux.
Archives issues du DVD Les groupes Medvedkin, Le film est une arme, diffusé par l'ISCRA et édité par les éditions Montparnasse.
Medvedkin.